Nous ouvrirons nos Bibles maintenant pour lire le texte que Philippe nous propose pour introduire sa méditation. Ce texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi.
Voilà un texte ce matin qui s'impose presque à nous, étant donné la programmation d'une consécration diaconale. Un texte sur lequel il est donc bon de revenir. Car il y a déjà en ce temps-là des problèmes ecclésiaux. En effet, l'Église primitive, comme on a coutume de l'appeler, est une Église en difficulté. Elle l'a d'ailleurs, à bien y regarder, toujours été. Nous pourrions, si nous poussons un peu le bouchon assez loin, dire que les difficultés de l'Église commencent avec le Christ quand il est porté au bois. Nous pourrions également dire qu'à la suite de ce premier des persécutés chrétiens, d'autres, Étienne notamment, emboîteront le pas. Et voilà le premier axe de persécution ecclésiale, de difficulté ecclésiale, la persécution. Il y a bien évidemment d'autres orientations risquées qui pourraient mettre à mal l'édifice qui est en train de s'ériger, je pense aux fausses doctrines. Mais il en est un beaucoup plus pernicieux, celui de la désunion interne. Et c'est de cela dont il s'agit ici. Car vous l'avez remarqué avec la simple lecture du texte emprunté au chapitre 6 des Actes des Apôtres, il y a dans l'Église primitive, une Église que nous avons d'ailleurs tendance à idéaliser, un gros problème pour ne pas dire un schisme. D'un côté les hébraïsants, de l'autre les hellénisants. Qu'est-ce à dire? Tous sont juifs. Il est des juifs purs, des juifs palestiniens, des juifs convertis au christianisme, mais qui viennent des milieux religieux juifs, pharisiens, sadducéens, et qui sont encore très attachés à la règle, à la loi, aux 613 commandements que les pharisiens ont créés depuis que Israël avait été déporté. Et puis il y a les autres, les judaïsants, les juifs de la diaspora, ceux qui viennent d'un petit peu partout, qui ne parlent même plus ni l'hébreu, encore moins l'araméen, langue coutumière des juifs de Jérusalem en ce temps. Et voilà que ces nouveaux venus, qui ne maîtrisent même pas la langue, commencent à occuper de plus en plus de place dans cette communauté. Voilà que la culture d'origine commence à réagir face à cette nouvelle culture qui semble être assez libérale, car un petit peu moins attachée à toutes ces règles religieuses ô combien considérées par les premiers. Et voilà comment l'ennemi va faire monter la mayonnaise. Il est quand même un mot dans le texte qui nous indique que la situation est grave. On murmure dans l'Église. Et ce murmure ne peut manquer de nous rappeler le murmure des Israélites qui contestaient l'autorité de Moïse et à travers lui de Dieu. La situation est donc grave dans cette communauté et il faut réagir. Ce texte nous invite donc à considérer l'importance du diaconat, puisque c'est là la solution trouvée par les apôtres au problème grave que nous venons de dépeindre. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, le seul qui n'est pas juif, il est probablement d'une autre culture. Voilà la solution que Dieu inspire à la communauté de Jérusalem pour qu'elle puisse sortir de l'impasse du piège de la désunion. Arrêtons-nous quelques instants sur cette solution. Et essayons en cela de relever et d'éviter le risque dans lequel des esprits trop rapides pourraient tomber, à savoir celui des ou de l'homme du diacre providentiel. Celui qui a toutes les qualités, puisque le texte nous dit qu'il est recommandable. Celui qui en plus est plein d'esprit, puisque le texte le dit. Celui qui en conséquence déborde de sagesse, le texte le dit toujours. Il est normal qu'avec ces sept-là, faut-il le rappeler, chiffre de la perfection humaine, diaconale, soit portée à son paroxysme et que, quelle que soit la problématique rencontrée dans la communauté, elle soit solutionnée. Ce qui présente l'inconvénient de brandir un mythe biblique, celui de l'homme providentiel, à part le Christ, il n'en existe pas, et c'est qu'il y a le désavantage aujourd'hui de mettre quand même pas mal la pression sur les diacres qui vont aujourd'hui être consacrés. Je crois qu'il nous faut regarder le texte d'un petit peu plus près. Il est vrai, et je ne nierai certainement pas cela, qu'il revient au diacre une certaine stature. Faut-il lire Paul dans 1 Timothée 3, verset 8, pour constater cela? Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, que l'on éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes d'eux-mêmes, et les femmes ici, ce ne sont pas les femmes des diacres, ce sont les femmes diaconesses, déjà, en ce temps-là, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. La famille est impliquée dans ce ministère. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Il s'agit donc d'hommes et de femmes de qualité, ne le nions pas. Mais la clé de la réussite, pourquoi la solution proposée par les apôtres et inspirée de Dieu fonctionne, eh bien permettez-moi maintenant de vous le livrer avec quelques constatations. Tout d'abord, relevons que les autres récits concernant les diacres, ceux qui sont cités dans la liste des sept, ne les mettent pas en situation de diaconie. Ils sont des prédicateurs, ils sont des évangélistes, je pense à Étienne, je pense à Philippe, mais ils ne sont pas des diacres, en tout cas dans le sens de ce que nous comprenons, attachés aux tâches pratiques. D'autre part, si nous nous attachons à notre tour à certaines traditions chrétiennes, il semblerait que le dernier de la bande, Nicolas, le seul qui ne soit pas juif, est apostasié. Il serait à l'origine des Nicolaïtes dont Jean dans l'Apocalypse nous parle. Alors oui, ils sont tous ce qu'ils sont, mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Ils sont aussi des hommes. Voilà une première leçon que j'adresse tout d'abord à ceux et celles qui dans un instant seront consacrés, mais en même temps vers laquelle j'attire votre attention. Il y a dans l'Église, quelle que soit la fonction, quel que soit le ministère, à part le Christ, aucun homme parfait. Et même si le texte nous laisse penser qu'il l'aurait été, la réalité nous démontre qu'ils ne le sont pas. Quel est le problème de cette communauté ? C'est d'abord un faux ou un bon problème. La communauté grandit. Il y a trop de monde. À cause de cela, le vrai problème maintenant, une confrontation, un choc culturel. D'un côté, nous l'avons dit, les hébraïsants, de l'autre, les Hellènes, ceux qui sont imbibés de la pensée, de la culture grecque, cartésienne, et diamétralement opposée à la culture judaïque ou hébraïsante. Comment se traduit ce problème ? Par une injustice sociale. Les veuves des Grecs sont mises de côté au profit des veuves des Juifs ou des Hébraïsants. Une partie de l'Église est nombre et moindre. La partie grandissante qui permet le développement de cette communauté primitive est victime d'une certaine forme de racisme social. Voilà le véritable problème qui se pose dans cette communauté primitive et qui fait que nous n'exagérons pas en disant que le risque est là, du schisme, de la désunion. C'est là qu'il nous faut nous arrêter sur l'attitude apostolique. Les 12, les apôtres, convoquèrent l'ensemble des disciples. Et nous devons ici comprendre le mot disciple comme suit l'ensemble de ceux qui écoutent le Christ, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui, à certains moments de la semaine, notamment le samedi, se réunissent dans l'assemblée, l'ecclésia, l'église, pour entendre la parole à propos du Christ dispensée par les apôtres. Bref, c'est toute l'église qui est réunie. Nous assistons à quoi ? À la première réunion administrative extraordinaire. Ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est que les apôtres vont distribuer la parole. Ils ne vont pas essayer de botter en touche, de ne pas voir ce qui est criant, ce que d'ailleurs le texte essaie d'éviter. Ils ne nient rien. Ils font preuve d'objectivité, ils ont du courage, ils affrontent le problème et ils viennent demander à ceux et celles qui en sont victimes de l'exprimer. À la fois démocratiquement, le process est intéressant, mais psychologiquement, il est encore plus. Nous assistons ici à une véritable catharsis. Vous savez, quand il y a quelque chose en nous qui ne va pas, il faut cracher le morceau. C'est ce qui se passe ici. Et après, on se sent bien. Mais ce n'est pas fini. Toujours le verset 2. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Mais excusez-moi, ce n'est pas le problème. La problématique de départ n'est pas celle-là. Il n'a jamais été dit que les apôtres n'arrivaient pas à consacrer suffisamment de temps, le temps considéré nécessaire par certains dans la communauté, pour servir aux tables. Il est dit dès le départ que les veuves des Grecs sont victimes d'injustice en comparaison des services donnés aux veuves des Juifs. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir combien les disciples vont déplacer le problème. Ils vont plutôt utiliser ce que j'appellerais la pédagogie du verre à demi plein plutôt que du verre à demi vide. Au lieu de regarder une problématique, dans ce cas-là, de plus bas, de plus vil, un racisme social, utilisons le mot, nous l'avons déjà fait, ils vont plutôt regarder la problématique sous un angle positif. On n'a pas le temps. On est désolé. Et d'ailleurs, si ça continue, on va rencontrer un sérieux problème. Nous ne serons même plus capables de dispenser l'essentiel, la prière et la parole. Il nous faut donc réagir. Je trouve qu'il y a de la finesse, presque politique dans le bon sens du terme. Mais ce n'est pas fini. C'est pourquoi, verset 3, frères et sœurs, vous, l'Église, vous qui souffrez de cette situation, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Vous vous plaignez ? Vous avez raison. Nous faisons notre mea culpa, nous les apôtres. Mais nous voulons vous impliquer dans la résolution de ce problème. Donnez-nous, vous, la solution. L'Église comprend le message. Ce qui signe, ce qui prouve qu'elle a bien compris, les noms des sept, ce sont tous des Juifs d'origine grecque. Il n'y a pas un d'hébraïsant. Et les apôtres acceptent. Car il faut que l'union de la communauté soit conservée. Je crois qu'il nous faut aussi regarder le texte sous cet angle. Pourquoi ? Parce qu'on comprend, au-delà des départements et au-delà des consécrations, que s'il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de ministère providentiel. Et même les apôtres les plus inspirés, puisqu'il s'agit des apôtres du Christ, affichent aussi par moments certaines limites. L'essentiel, c'est de trouver les ressorts, les mécanismes, l'intelligence qui permettent à l'ensemble de se sentir impliqué dans ces problématiques pour les transformer en quelque chose d'utile qui, par l'avènement d'une solution, permet à l'ensemble de toujours continuer le chemin, un chemin de proclamation de Jésus-Christ et de son salut. Voilà l'essentiel, voilà la leçon du chapitre 6 du livre des Actes. Et les diacres dans tout cela, puisque c'est d'eux dont nous voulons parler. Bien évidemment que toutes les qualités qui font qu'ils sont désignés vont pouvoir être utiles, mais vous connaissez aussi bien que moi le dicton, on joue beaucoup mieux au football sur un billard, c'est-à-dire un bon terrain, que sur un champ de patates. Et je suis sûr qu'hier, les Français qui ont gagné 3-1 l'ont pu parce que la pelouse du Stade de France était très bonne. Eh bien, grâce à l'action des apôtres, le terrain a été tondu, aplani, rendu presque parfait. Et on comprend que la partition que les musiciens, que sont nos diacres consacrés, sont amenés à jouer va l'être de la façon la plus belle et la plus juste qui soit. Il va pouvoir y avoir pour chacun de ces diacres la possibilité d'une optimisation, l'optimisation de tous ces talents, de tous ces dons que Dieu leur a donnés et qui rendra leur ministère particulièrement efficace. Il y avait, pour que cela puisse se réaliser, besoin, nécessité d'un travail préalable. Les apôtres l'ont accompli. Et nous avons dit comment. Bonne réputation. Je ne sais pas si nos voisins peuvent toujours dire de nous que nous leur offrons le témoignage d'une bonne réputation. Il est très facile de transmettre l'illusion d'une bonne réputation à mesure de samedi, lorsqu'en dimanché ou en sabbatisé, nous venons, nous nous saluons, toujours le sourire. Mais lorsque nous sommes dans la réalité de notre quotidien, confrontés aux soucis de la vie, ceux et celles qui sont autour de nous et qui nous observent, pourraient-ils dire que nous sommes des gens de bonne réputation ? C'est en tout cas ce que les membres de la communauté primitive pouvaient dire de ces diacres. Et ce qui m'intéresse dans ce constat, c'est de voir que le constat de bonne réputation est un constat à long terme. Vous savez que l'Église de l'époque ne se réunissait pas qu'une fois par semaine, le samedi, le Shabbat. Elle se réunissait pratiquement tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour, puisqu'on calquait le calendrier liturgique sur celui du Temple. Autrement dit, les frères et sœurs pouvaient s'observer au jour le jour, voir qui ils étaient dans la réalité, dans la vérité de l'être qui leur était donné de pouvoir contempler, du moins constater. Et le témoignage de la communauté est unanime. Il s'agit là de gens de bonne réputation, qu'ils soient à l'église et nous les voyons tous les jours ou dans la vie. Nous pouvons les recommander. Première caractéristique du diacre. Pourquoi peuvent-ils être ainsi recommandables, à ce point recommandables? Parce qu'ils sont spirituels, ils débordent d'Esprit Saint. Ils ont compris un jour que le Christ était le sauveur de l'humanité. Et grâce à cette acceptation, grâce à la réception de ce don, ils ont reçu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le plus beau des cadeaux, le plus grand des trésors qu'un homme puisse un jour recevoir. Ils l'ont pleinement, ils le conservent. Et ils permettent, grâce à cette conservation, à l'expression plénière de cette puissance spirituelle intrinsèque, de s'exprimer dans la réalité de leur quotidien. Il est tout à fait normal qu'ils soient sages. Lorsqu'on a besoin d'un conseil, on le trouve chez ces gens-là. D'ailleurs, on n'est même pas obligé ou on ne doit pas attendre d'aller demander, il suffit de les observer. Et on obtient tellement de réponses à nos questions, de solutions à nos problèmes. Et enfin, j'en termine, il me semble que finalement ces hommes-là, ces diacres et ces diaconesses-là, transmettent de l'espoir, transmettent une espérance. À la fois celle d'un Dieu bien vivant, bien réel, il croit en qui après tout? Il croit en le Christ. Et cette croyance est démontrée par l'effusion du Saint-Esprit dont nous avons dit chez eux qu'elle était plénière, pleine, totale. Chacune de leurs respirations, chacun de leurs faits ou de leurs gestes quotidiens est une signature de la réalité divine en ce monde. Et combien cela fait du bien. Lorsqu'on est confronté à un problème, si nous affrontons ce problème seul contre tous, nous rendons le problème parfois deux, voire trois, voire quatre, et bien plus encore, difficile qu'il ne l'est. Le même problème, vous le regardez avec la certitude que Dieu est avec vous. Il devient une bénédiction, en tout cas in fine. Voilà l'espérance que transmettent les diacres et les diaconesses. Je crois qu'ils transmettent aussi le sentiment, le potentiel, la possibilité d'un développement. Après tout, qui sont ces diacres et diaconesses? Ne vous imaginez pas qu'ils sont tous passés par les universités de l'époque, si tant est qu'elles existent. Il s'agit déjà de hommes et de femmes simples, du moins d'hommes simples, qui viennent, nous l'avons remarqué, grâce à l'étymologie de leur nom propre, de l'extérieur, de pays étrangers. Ils ne maîtrisent même pas la langue locale. Et pourtant, ils ont développé tant et tant de qualités qu'ils en deviennent incontournables lorsqu'il s'agit de désigner des diacres. Ils ont développé un potentiel, ils nous indiquent un chemin. Lorsque l'on est consacré et lorsque l'on est persévérant, lorsque l'on ajoute à cela le courage et la volonté du travail, on y arrive. Voilà aussi l'espoir qu'ils transmettent à cette communauté. Ils indiquent aussi qu'au-delà des cultures, au-delà des barrières, au-delà de toutes les difficultés de ce temps et encore de celui d'aujourd'hui, il y a possibilité de créer, de tendre des ponts et de se mettre en relation. Nous avons dit que pour deux de ces diacres, Étienne et Philippe, il s'agissait plus de prédication, de travail missionnaire que de diaconat, in fine. C'est-à-dire de relations de main tendue vers l'autre, de désir d'apporter la parole de Dieu et donc pour cela de se tourner vers ceux et celles à qui on veut l'apporter, ce qui démontre une capacité relationnelle évidente. Et à cette époque-là, pour cette culture étrangère à la culture juive autochtone, c'est important de le savoir, de le vérifier et de s'intégrer, du coup, plus facilement dans cette communauté. Bref, ils transmettent un sentiment de sécurité. C'est là aussi l'un des ressorts, l'un des ponts de l'espérance qu'ils donnent à ceux et celles qui, dans la communauté, les ont recommandés. Voilà, je le crois, si nous transposons un peu à nous aujourd'hui les enjeux qui s'attachent au ministère diaconal. Et j'invite nos amis diacres et diaconesses qui particulièrement aujourd'hui sont mis à l'honneur, eh bien d'intégrer ces quelques remarques, non pas pour se sentir alourdis par le poids de la fonction, mais au contraire, encouragés à aller dans toutes les orientations, directions proposées par cette fonction, car il s'agit au travers du service rendu d'un témoignage que vous rendrez à la communauté et à l'extérieur de la communauté, et qui fera de chacun de vous des signes d'espérance. Amen.